les jardinières.
On débute le week-end avec un tour au jardin. Les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h ce matin. Nous parlerons conserve de fruits et légumes et nous répondrons bien sûr à vos questions. Bonjour Raphaël.
Et bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Je recommence. Bonjour. Il s'est levé tôt et du bon pied. Tom le jardinier est avec nous ce matin. Bonjour Tom.
Bien le bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel paru chez Albin Michel. Et on peut retrouver tous vos conseils sur votre site tomlejardinier.com. Merci d'être avec nous ce matin.
Très bon réveil à tous et merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre samedi.
7h, 8h, les jardinières.
La semaine écoulée était belle et terriblement bien ensoleillée. Après quelques nuages et averses ces derniers jours, le soleil sera bientôt de retour selon Météo News. Il fait très chaud la journée, mais les nuits sont fraîches. Dites-nous, Tom, on fait quoi au jardin ces jours?
Alors, il y a plein de choses encore à semer, à planter. Si on veut avoir un beau jardin d'automne et d'hiver pour avoir des récoltes, je pense par exemple aux épinards, je pense par exemple à la mâche, rampondoucette, tout dépend d'où ça convient. On peut aussi semer encore quelques côtes de bêtes qui seront belles jusqu'aux premières gelées. On peut aussi ne pas oublier toutes les salades d'hiver comme les chicorées scaroles, les pains de sucre qu'on peut planter au jardin. Pourquoi pas essayer la chicorée de Trévise, qui a une chicorée qui vient assez rouge, très amère, mais qui est délicieuse en salade. Et puis on continue à récolter, à conserver, on le verra plus loin. On n'oublie pas aussi un petit peu de redonner une petite forme à nos herbes aromatiques, un petit peu les tailler parce qu'elles ont fini de fleurir généralement maintenant. Et puis voilà, on continue un petit peu à entretenir son jardin.
Merci beaucoup Tom et je rajouterai à ces bons conseils de profiter des derniers barbecues de la saison aussi, hein, tant qu'on y est.
Oui, et puis avec les averses, pourquoi pas peut-être aussi aller chercher quelques champignons en forêt.
Eh bien écoutez, voilà, comme ça tout est dit, comme ça on se fera des bons petits gueuletons. Vous nous invitez quand vous voulez Tom. Les jardinières répondent à vos questions jardinage qu'on attend comme chaque semaine par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace, c'est votre question. Puis vous nous l'envoyez ce message au 939. Vous pouvez choisir la troisième option, c'est par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo. Ça permettra à notre professionnel d'y répondre plus facilement.
Et dans la suite des jardinières, nous allons apprendre à conserver nos légumes, que ce soit au congélateur, en pot ou en confiture. Tom va nous expliquer tout ça.
7h, 8h, les jardinières.
Pour bien conserver les légumes et les fruits de votre propre culture ou du marché, bien sûr, il existe diverses méthodes simples à mettre en place. Nous allons en découvrir quelques-unes ce matin en compagnie de Tom le jardinier. Alors la technique la plus courante et peut-être la plus simple pour conserver ces légumes est la congélation. Tom, prenons par exemple les haricots. Comment vous les préparez une fois que vous les avez soit cueillis, soit achetés au marché pour les congeler?
Alors, les plus gros haricots, on va les équeuter pour enlever éventuellement le fil qu'il pourrait y avoir, qui est un petit peu coriace à manger, qui n'est pas terrible à faire. Ensuite, je vais faire bouillir mes haricots pendant environ 6 minutes. Mais là, on veille bien qu'ils restent bien dans l'eau, parce que sinon, il faut bien couvrir avec de l'eau. Après, une fois que ça bouillit, je prends une passoire, je les passe dedans et je vais mettre de l'eau glacée pour conserver un maximum leur couleur parce que sinon, ils ont vite tendance à s'oxyder et être un petit peu moins bons. Puis après, je les mets sécher sur un linge de cuisine et puis comme ça, ils ne feront pas un bloc. Vous savez, les blocs qu'on la met dans les sachets qui vient d'un coup. Alors pour éviter ce bloc-là, je les mets bien séchés puis après, je les mets au congélateur.
Mais alors, Tom, est-ce que tous les légumes peuvent se congeler?
Alors, non, ils ne se conservent pas tous. On va éviter de conserver des tomates entières. On va essayer d'éviter de congeler du concombre. L'idéal, c'est vraiment de trouver la meilleure façon pour conserver aussi un maximum d'éléments nutritifs. Pour ça, on peut aussi les sécher. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. On peut aussi mettre sous vide. On peut aussi tester la lactofermentation. Pourquoi pas aussi tester d'autres moyens de conservation. On peut par exemple saler des légumes, mettre des légumes au vinaigre. Donc, toutes des petites choses qu'on parlera prochainement.
Il n'y a pas que les légumes qui se congèlent, mais aussi les petits fruits.
Alors oui, les petits fruits, ça se conserve assez bien. Moi, j'ai tendance à plutôt les faire en coulis, parce que je trouve que si je les Je ne suis jamais très très satisfait du résultat si je les garde entiers. Seul truc qui fonctionne encore assez bien, c'est les congeler les framboises. Là, je les mets sur une plaque à gâteau au four, quand on fait nos plaques. Et puis, je les mets assez séparées les unes des autres. Puis après, quand on a un grand bahut, vous savez, ces congélateurs, je les mets dedans. Comme ça, elles se congèlent individuellement avant de les mettre là aussi dans des sacs.
Mais Tom, il existe aussi d'autres manières de conserver ces légumes. On parle évidemment des conserves. Alors ça y est, ce samedi j'ai du thon, je me lance dans la conserve de sauce tomate. Comment est-ce que je procède, Tom ?
Déjà, le premier truc qui est important d'en savoir dans cette conservation en bocaux, c'est qu'on peut, si on s'est mal fait, créer de la toxine botulique. Je vais éviter de vous parler de son petit nom latin un petit peu barbare, mais le premier truc qu'il faut bien faire, c'est bien tout laver. On se lave bien les mains, on lave les bocaux.
À l'habitude, les mains, c'est ton.
Les légumes ou les fruits, et puis on change les joints des bocaux à chaque fois, après chaque utilisation. Après, on fait classiquement sa sauce tomate. Hein, on coupe nos tomates, on met ou on ne met pas la pulpe qui est à l'intérieur. Et puis après, on met ça dans des bocaux. On referme nos bocaux, on vérifie bien qu'ils soient bien fermés, que le joint il est bien mis. Et puis après, on va mettre nos bocaux à bouillir dans une marmite parce que cette toxine botulique ne supporte pas une température de plus de 100 degrés. Donc on va les mettre bouillir dans une marmite avec au moins 2 à 3 cm d'eau au-dessus de ces bocaux. Pour éviter qu'ils bougent trop, on peut éventuellement mettre un bout de pavé qui traînerait ou une grosse pierre du jardin bien nettoyée. Et puis après, on fait bouillir pendant 45 minutes, puis on va laisser refroidir nos bocaux dans l'eau jusqu'à ce qu'on peut les toucher avec la main, puis voilà. Et puis on n'oublie pas de bien les étiqueter avec l'année, ce que c'est, si c'est une sauce tomate, si elle a été aromatisée avec de l'origan, pourquoi on met des tomates origan, ce genre de choses-là, pour être sûr de ne pas se tromper avec une sauce tomate ou un ketchup, et puis voilà.
Et puis ensuite, les pots de sauce tomate sont à ranger dans un endroit frais et sec, hein, comme pour tout. Ça se garde combien de temps ?
Alors, ça pourrait se conserver quelques temps. Moi, je ne les conserve pas plus d'une année à l'autre, parce qu'après, on a des nouvelles tomates au jardin. Je préfère les conserver pas plus qu'une année. Après, je trouve que le goût y change un petit peu.
Merci beaucoup Tom. Dans la suite des jardinières, nous verrons qu'il existe encore d'autres techniques de conservation. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Tom le jardinier, nous parlons de conserve de légumes. Alors, il existe beaucoup de techniques pour conserver ces légumes d'été, pour les savourer en hiver. Nous avons parlé de congélation et de stérilisation. On peut aussi les sécher, les aliments. Alors Tom, on va reprendre nos fameux haricots du début, mais cette fois, on va les sécher. Alors, comment on sèche des haricots ?
Alors, on reprend la même façon de faire, hein, donc équeuter, enlever le fil, on les fait bouillir 6 minutes, on les laisse sécher sur son linge. Là, pas de problème, on commence à maîtriser. Hein. Puis après, moi, j'ai deux façons de le faire. Alors, on a le fameux déshydrateur électrique qui peut être la solution qui prend du temps, qui, à mon sens, n'est pas la plus écologique. Mais si, par exemple, on fait une journée pizza, puis après, on fait un cake encore, ben, on peut aussi profiter de la chaleur du four pour pouvoir mettre déshydrater nos haricots. Une fois qu'ils sont complètement secs, on peut soit les mettre dans des boîtes hermétiques. Ma maman, elle les mettait dans un linge en tissu et puis elle les stockait un petit peu à l'abri de la lumière et puis à l'abri de l'humidité.
On connaît aussi les fruits séchés comme les pommes ou encore les abricots. Est-ce qu'il y a d'autres fruits, Tom, qui se prêtent volontiers au séchage ?
Alors, comme ça, de tête, je crois qu'il y a aussi les pruneaux et les abricots qui peuvent se sécher assez facilement, on a dit les abricots. Mais là, il faut faire attention avec les fruits, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, j'ai souvent des résultats qui sont moins bien faits. Peut-être qu'il faut les sécher aussi, et adapter le temps de séchage et puis la conservation. Moi, je les préfère des fois les conserver au sucre, par exemple, faire de la pâte de coin ou genre de choses. Je trouve que le résultat, il est souvent un petit peu meilleur.
Et plus gourmand. Tom, quand on se lance dans la conservation de légumes, que ce soit congélation, stérilisation ou autre, les règles de base sont souvent les mêmes. Bah, vous l'avez dit au début, hein, l'hygiène.
Alors oui, l'hygiène, bien se laver les mains, bien laver tout ce qu'on va utiliser pour, pour la conservation, parce qu'il faut se dire que ces légumes, ils vont rester, ou ces fruits, ils vont rester longtemps. Donc si on a une bactérie ou un champignon, un pathogène qui viendrait se mettre à nos légumes, il a tout le temps de se développer. Ce qui est aussi important, c'est de vérifier régulièrement, pas qu'on ait des moisissures, même si on conserverait par exemple des simples pommes à la cave, donc vérifier régulièrement les fruits qui pourraient être malades. Et puis ce qui est aussi très important de faire, c'est d'utiliser des fruits et des légumes à pleine maturité, sauf si on fait de la confiture de tomates vertes.
Et ça, on peut prendre toutes les tomates.
Merci beaucoup, Tom. Et il existe aussi la technofermentation.
La lactofermentation.
La lactofermentation. Oui, je lis mal, c'est pas grave, j'ai les yeux qui se croisent ce matin. Est-ce que vous nous expliquez comment ça marche en quelques mots ?
Alors, la lactofermentation, c'est la conservation par une solution saline de l'eau et du sel. Et puis, comme on l'avait vu avant, la technique du... ce qui était important d'éviter, c'était évidemment d'avoir cette... je retrouve mes mots, la toxine botulique, pour éviter d'avoir cette toxine dans nos fruits et ou dans nos légumes, plutôt dans nos légumes puisqu'on conserve dans du sel, c'est évidemment de faire bouillir aussi longtemps ces légumes. Petite chose pour revenir sur cette toxine botulique, donc s'il y a de rares cas, mais il faut être assez vigilant, ça peut être mortel. Et puis, cette toxine vient si on n'a pas stérilisé nos bocaux, si on n'a pas stérilisé les choses qu'on fait. Puis, elle n'arrive pas si on fait de la confiture, elle n'arrive pas si on conserve aussi dans le vinaigre nos herbes, par exemple, dans l'huile. Ça n'arrive pas dans ce cas-là parce que le pH de ce genre de technique-là, il est trop faible, il est en dessous de 4,6 de pH. Donc, dans ces cas-là, la toxine botulique ne se développe pas.
Merci beaucoup, Tom, pour toutes ces explications. Et puis, on trouve des sites internet comme...
On en trouve plein sur internet. Si vous cherchez leparfait.fr, qui est une fabrique de bocaux en France, ils vous conseilleront leurs bocaux, mais...
Vous pouvez utiliser des autres, bien sûr.
Évidemment. Et puis, il y a d'autres façons aussi de conserver. On n'a pas parlé du vinaigre, on n'a pas parlé, par exemple, pour ces herbes aromatiques, le meilleur moyen de les conserver, c'est facilement le séchage ou, tout simple, pour le persil, on met les bouquets presque comme ça dans un sachet de congélation, on le met au congélateur, puis après, on n'a plus qu'à retirer les queues. Puis on peut l'utiliser. Donc, il y a plein de moyens de conserver ces fruits et légumes, d'avoir de la verdure en hiver. Et puis, on n'y pense pas aussi, mais la cave.
Elle est pratique. Merci beaucoup, Tom. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
Les jardinières.
On parle jardinage jusqu'à 8h. Tom le jardinier, chroniqueur, blogueur et auteur du livre Un potager au naturel, paru aux Albins Michel, mais également créateur du site tomlejardinier.com, répond à vos questions et est avec nous en direct.
Et vous les posez sans attendre vos questions, que ce soit sur la thématique de la première partie d'émission, sur la conservation des fruits et des légumes, ou toute autre question en rapport avec le jardinage, vous le faites par téléphone avec la chance de pouvoir parler en direct avec notre professionnel. Pour ça, il faut composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si vous êtes un peu plus timide, pas de souci, vous choisissez l'option SMS, vous tapez simplement jardin, un espace et votre question suivie et vous nous l'envoyez au 939. Vous pouvez le faire par formulaire qui est disponible sur notre site internet, avec en prime la possibilité de joindre une photo.
Vous l'avez dit, Raphaël, en première partie, on a parlé de la conservation des légumes, on a parlé congélation, stérilisation, et on se demandait, Tom, vous, c'est quoi votre moyen de conservation de fruits et légumes préférés ?
Alors, la congélation, évidemment, c'est un truc assez simple à faire. Et puis, à part un petit peu de place, ça ne demande pas grand-chose. Et puis après, le séchage pour beaucoup d'herbes aromatiques, l'origan, la menthe, le romarin, le thym, la sauge, tout ce genre de choses-là, c'est vraiment en termes d'aromatique. Là, je trouve qu'on peut avoir des plats avec beaucoup de saveurs, avec... assez peu de temps, on sèche nos herbes aromatiques plutôt à l'ombre, comme ça elles perdent pas tellement toutes leurs couleurs, et puis on peut se faire des infusions, on peut se faire des bons petits plats après, sans forcément demander trop d'efforts.
Mais Tom, on entend aussi, quand on parle de conservation, de mettre les choses sous vide. Est-ce que pour tant les fruits que les légumes, c'est aussi une bonne manière de les conserver ?
Alors, sous vide, oui, mais il faut un petit peu les cuisiner avant. On peut faire, par exemple, une ratatouille qu'on met sous vide. Après, là, il faut faire attention, si on ne congèle pas, ça se garde pas autant qu'un plat préparé au frigo. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va augmenter beaucoup la durée de conservation. Et puis... par exemple, là, moi, je fais mon pesto que je peux faire sous vide ou mettre dans des bacs à glaçons et puis je le congèle. Ça marche assez bien.
Donc, tous les moyens sont bons pour garder des légumes de saison et local pendant toute l'année. Donc, il n'y a plus d'excuses. Hein. Lancez-vous.
Et faire le plein de vitamines.
Et c'est ça. Et quel plaisir de manger une ratatouille en plein hiver. Merci beaucoup, Tom. Bien sûr, cette thématique, vous la retrouverez en cours de matinée sur notre site avec tous les liens qui pourront vous aider à conserver vos légumes. On va maintenant passer aux questions de nos auditeurs. Eh bien, justement, on va parler menthe pour commencer avec vous, Tom. Cette personne nous dit notre menthe commence à sécher dans son bac. Est-ce qu'on peut tout couper maintenant ? Si oui, à quelle hauteur ?
Alors, la menthe, c'est presque une plante qui est un petit peu coriace, hein, presque mauvaise herbe et envahissante si on ne la cultive pas dans un bac. Donc là, c'est une première bonne chose qu'elle ait été cultivée dans un bac. Mais on peut tailler tout ce qui est sec et puis on commence gentiment à la réarroser un petit peu. Il se peut qu'elle fasse encore quelques feuilles bien vertes avant l'hiver et puis après elle passera l'hiver confortablement dans son bac. Peut-être mettre un petit peu d'engrais, profiter pour faire peut-être un petit rempotage parce que évidemment ces menthes, menthe marocaine, menthe poivrée, elles demandent toujours aller un petit peu plus loin. Donc un petit peu peut-être la diviser, la replanter dans un pot. C'est peut-être pour ça qu'elle est devenue un peu sèche.
Est-ce que cette menthe qui est sèche, on peut quand même l'utiliser ? Par exemple, je pense à faire un sirop avec.
Alors oui, si les feuilles ne sont pas trop abîmées, si elles ne sont pas tachées, ce qui peut être le cas quand les feuilles sèchent.
Merci beaucoup Tom pour poser votre question à notre professionnel. Je vous rappelle le numéro 0 901 70 20 20. Vous nous appelez maintenant et vous pourrez poser votre question à notre professionnel d'ici quelques instants. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin un espace votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On parle légumes, on parle fruits. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions à notre professionnel ce matin. C'est Tom le jardinier qui vous répond.
Et puis s'il y a Bonnie Tyler qui est venue passer une tête, c'est également le cas de Marianne qui nous a contacté au 0 901 70 20 20 pour poser sa question à Tom. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Votre question pour notre professionnel.
Alors, ma question, j'ai un figuier qui a à peu près maintenant 1m50, puis il est dans un pot. Alors, je voudrais savoir si je peux cet automne le mettre dans un plus grand récipient, et puis si je peux le laisser passer l'hiver dehors.
Alors, vous habitez où, Marianne ?
À Halle.
Alors, à Halle, j'imagine qu'à Halle, il peut quand même faire un petit peu froid. Ce qui serait peut-être bien, c'est de le rempoter, mais le rempoter, je le ferai plutôt moi au printemps. Et puis, ce qui peut être pas mal de faire pour éviter d'avoir trop de... Alors, 1m50, ça commence à faire du gros figuier. Mais j'allais dire, c'est peut-être intéressant d'enterrer le pot en automne et en hiver pour pas que le froid... puisse l'attaquer de toutes parts et puis bien le protéger avec des voiles de protection. Mais j'ai un petit peu du mal à me dire, je vais vous demander d'enterrer un pot d'un figuier d'un mètre cinquante. Donc bien le protéger.
Il faudra déjà faire un gros trou dans le jardin.
C'est ça. c'est justement ça. Il y a des variétés de figuiers qui peuvent résister jusqu'à moins 30 degrés, ça je le sais, mais Philippe Détrat, qui est un autre jardinier qui intervient ici, s'y connaît aussi pas mal dans les
figuiers. La semaine prochaine, si jamais.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire... peut-être connaître bien la variété de la figue pour savoir quelle est sa rusticité.
Oui, alors, je ne le sais pas, parce que ma voisine, elle en a un. Il est maintenant, c'est un arbre, hein. Elle l'avait trouvé au compost, elle l'a planté, et puis il y a des années qu'elle l'a. Hein.
Alors, si à la
Alors, je me dis peut-être que... Mais celui-ci, c'est quelqu'un qui m'a donné des petites baguettes et puis qui ont reprise. Alors, je ne sais pas quelle sorte c'est.
Alors, regardez peut-être du coup
Ouais.
avec la personne qui vous a donné les boutures et puis si elle, la personne là en pleine terre, je conseillerais presque de le planter dans le jardin si vos voisins l'ont des figues plantées dans le jardin parce
Ouais,
que le
tiens, je
problème du
pense.
pot, c'est que le froid peut atteindre de toutes parts la plante et puis facilement faire mourir les racines.
Marianne, ce qu'on
Oui,
peut aussi
ben
faire, c'est vous prenez en photo votre figuier, vous nous l'envoyez via le formulaire qui est disponible sur notre site, comme vous êtes dans le Jura, c'est sur rfj.ch. Et puis on montre la photo à Philippe Détra la semaine prochaine, qui est assez calé en figues, et peut-être il pourra vous aiguiller un peu plus sur la variété de figues que vous avez.
Sur la variété, oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Alors, donc, c'est pas cet automne qu'il faudrait le mettre dans un plus grand pot.
Moi, je vous conseillerais plutôt au début du printemps
Au
prochain.
printemps. D'accord, ouais. Eh bien, je vous remercie
Mais merci
beaucoup.
à vous
Et
de votre
puis,
appel, Marianne.
bonne
Une
journée.
belle journée, un tout bon week-end à vous. Au revoir.
Merci, pareil.
Merci beaucoup, bonne journée. On rappelle, hein, si vous avez envie de nous appeler, comme vient de le faire Marianne, on va peut-être rappeler le numéro encore une fois rapidement, Raphaël.
0 901 70 20 20, vous êtes en direct avec nous, sinon vous pouvez nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui se trouve sur notre site internet.
7h, 8h, les jardinières.
Les dernières minutes des jardinières sont lancées, toujours en compagnie de Tom le jardinier. Et puis, on a parlé de conservation de légumes. Et puis, on répond également à vos questions ce matin. Et cette personne aimerait fleurir son balcon. Elle aimerait le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pot en ce moment sur un balcon?
Alors là, on est typiquement en autre de saison. Donc, on a les annuelles qui commencent à gentiment dépérir, et puis on est encore juste un petit peu tôt pour planter les bisannuelles qui commencent à se planter au 1er octobre. Gentiment, on peut commencer à les trouver. Mais on a un petit peu des plantes intermédiaires. On a les piments d'ornement, on a quelques cyclamens qui peuvent se trouver. Il y a peut-être déjà quelques petits arbustes, mais c'est aussi la très très bonne période pour planter aussi gentiment des vivaces. On peut parler des Echeras qui sont des feuilles très décoratives, on peut parler de plein d'autres choses, mais on est vraiment en termes de fleurs, typiquement un petit peu dans une saison un petit peu entre deux. Donc un petit peu de patience ou regardez pour trouver encore quelques plantes annuelles. N'oubliez pas aussi, si vous êtes sur votre balcon, de récolter peut-être quelques graines de tagettes, quelques graines de plantes qui ont été fleuries sur son jardin, sur son balcon. C'est
Ou
un petit
celui du voisin.
Voilà, c'est un petit peu le bon moment. Puis aller piquer une ou deux boutures de géranium si on a un géranium ou un laurier rose du voisin, c'est aussi le bon moment pour le faire.
Mais Tom, vous parliez de fleurir le balcon. Alors certes, on est entre deux saisons, mais quand on fleurit son balcon comme ça en fin de saison et à l'approche quand même des temps un peu plus frais comme l'hiver arrive, est-ce qu'il y a des plantes qu'il faudrait peut-être privilégier pour justement cette personne qui aimerait bien fleurir son balcon?
Alors, comme je disais, on est typiquement en une période entre deux saisons. L'automne et l'hiver, on est plutôt sur les bisannuelles, hein, donc ce qui est pensé, myosotis, pâquerettes, primevères, tout genre de plantes là. C'est plutôt des plantes qu'on va planter en automne, qui résistent bien au gel et puis qui vont fleurir encore impeccablement, une explosion de fleurs, plutôt pour la période prochaine.
Du coup, on va être un peu patient pour planter tout ça. On avait encore une question sur les orchidées. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'orchidées chez les jardinières. Des personnes qui ont des orchidées aimeraient savoir à quelle température doit avoir l'eau pour l'arrosage.
Alors, les orchidées, donc on va parler là de la Phalaenopsis, hein, la fameuse orchidée papillon qu'on trouve très facilement dans toute genre jardinerie. Là, mon conseil, c'est quand on voit ces racines grises, souvent dans les pots, au moment où les racines dans le pot sont grises, c'est le bon moment d'arroser. Pas arroser quand elles sont encore vertes. Et puis, pour la température d'arrosage, plutôt prendre une eau non calcaire à une température ambiante. C'est vraiment l'idéal pour les orchidées.
Exigeante, hein, les orchidées.
Et comme toute belle plante.
Je prends ça comme un compliment. Bon, avant de se quitter, Tom, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Nous sommes mi-septembre, un temps quand même des plus agréables, qui nous permet de profiter des journées, un peu moins des soirées qui sont fraîches. On fait quoi au jardin ?
Alors, en cette période, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut, si on veut, on est au potager, ce que je disais en début d'émission, faire encore pas mal de semis. Si on est plutôt côté ornemental, si vous avez envie de planter des tulipes, si vous avez envie de planter toutes ces bulbes de printemps, on parle des lys impériaux, ce genre de choses-là, c'est le bon moment de les commander. Pas forcément tout de suite les planter, on les plantera aussi début octobre. Mais dans les bulbes, c'est une production annuelle et puis les premiers services sont toujours les mieux servis parce que il faut éviter de prendre des plantes en solde. Avec les tulipes, ce genre de choses-là, les bulbes peuvent venir tacher, sécher, et donc là on peut commander. Autre chose qu'on peut faire, un petit peu rafraîchir son gazon, on peut un petit peu reboucher les trous de son gazon, toujours dans le renouvellement. Puis si on va au verger, et ben là on va déguster toutes les pommes qu'on voit, et puis c'est peut-être aussi le bon moment si on veut commander des arbres à racines nues, de trouver la bonne variété pour les planter à partir de là du mois de novembre.
Tom, rapidement, juste avant de conclure, comment on choisit un joli bulbe ?
On prend le bulbe de la taille la plus grande possible, puisque dans le bulbe, la fleur elle est déjà présente en fait. Le bulbe a fait son énergie, a tout fait ce qu'il y avait de nécessaire pour avoir un maximum de... En fait, toute l'énergie est déjà dedans. C'est pour ça qu'on n'arrose pas à l'engrais les bulbes. Une fois qu'ils sont plantés, il y a déjà tout pour fleurir. Et puis, on les arrose plutôt après la floraison avec un engrais.
Merci beaucoup, Tom le jardinier. On rappelle que vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel qui est paru chez Albin Michel et qu'on peut retrouver tous vos conseils sur votre site internet tomlejardinier.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite un bon week-end. On vous dit à tout bientôt.
Eh bien, à tout bientôt.
Rendez-vous samedi prochain dès 7h avec Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel, qui sera à la place de Tom pour répondre à vos questions. Puis bien sûr, vous pouvez poser vos questions quand vous voulez, soit via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières ou par SMS. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.